Bonjour, voici votre rendez-vous pour une nouvelle chronique du passé. Nous sommes à un mois des élections municipales. La campagne électorale bat son plein, mais nous ne l'évoquerons pas. Radio B, votre radio, le fait régulièrement. Avec Rémi, nous nous intéressons à l'objet de ces élections, la commune. La plus petite structure administrative de France et peut-être d'Europe. Que de débats pour tenter d'en diminuer leur nombre. Aujourd'hui, elles sont encore 34 839 dans la France métropolitaine, si nos informations sont fiables. Mais combien dans le département de l'Ain ? Avec quelles évolutions ? Ensemble, nous allons répondre à ces questions, mais après avoir écouté quelques paroles d'un maire qui chante son village.
Avec les gens de mon village, de la rivière jusqu'au canal, la vie ressemble davantage à mes rêves et mon idéal.
Rémi, bonjour.
Bonjour Martine. Vous avez reconnu Yves Dutheil, auteur-compositeur, qui évoque ici son village dont il a été maire pendant 25 ans. Et nous, nous allons évoquer les communes.
Au sens administratif et officiel du terme. Une loi du 14 décembre 1789 crée les communes, mais en réalité, elle donne un cadre juridique à une structure plus ou moins existante. En dehors de quelques villes, les gens vivent dans des villages. Ils vivent autour de leur église, au sein de la paroisse. L'église est un bien communautaire, construit et entretenu par les habitants eux-mêmes. C'est là qu'ils se regroupent le dimanche pour la messe dominicale et pour échanger des nouvelles.
Comment est gérée cette communauté paroissiale avant 1789 ?
Par des notables, des propriétaires terriens. Ils décident des travaux d'entretien des chemins, des ponts, de l'église et du presbytère, et du financement. À côté de ces notables, le rôle du curé est important. À la messe dominicale, il lit les ordonnances royales. Il tient aussi les registres paroissiaux où sont inscrits les baptêmes, les mariages et les sépultures.
La communauté villageoise s'est affirmée par rapport au pouvoir seigneurial. Le pouvoir royal reste présent par son administration et ses impôts.
Ou jusqu'à la Révolution, qui débute, comme chacun le sait, avec la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Les communes sont créées après d'autres événements importants. L'abolition des privilèges le 4 août et la nationalisation des biens de l'Église le 2 novembre 1789.
Et les communes sont créées ?
En toute simplicité, comme le dit le texte de la loi. Une municipalité pour chaque ville, bourg, paroisse ou communauté de campagne. Ce principe est la réalité socio-économique française du moment. Ainsi, 44 000 communes sont créées en France et 501 dans l'Ain.
Elles conservent donc les mêmes limites que les paroisses.
Et un décret de novembre 1790 demande aux communes de définir leur territoire en le divisant en sections. Ce découpage anticipe le futur cadastre napoléonien.
Nous avons évoqué un principe. Quelle est la réalité sur le terrain ?
Un peu différente. On se rend compte que certaines communes comptent trop peu d'habitants. Parfois, elles manquent de lettrés pour lire les directives, collecter l'impôt et même pour tenir correctement les registres d'état civil. Dès l'été 1790, des fusions sont évoquées, mais sans suite.
En même temps, on se préoccupe de la création des départements.
En effet, le département de l'Ain est créé le 25 janvier 1790. Des négociations sont engagées avec le Jura pour des échanges de communes. En faveur du Jura, du côté de Thoirette, au bord de la rivière d'Ain. En faveur de l'Ain, dans la vallée du Suran. Et le nouveau département reste très ferme pour Saint-Laurent-sur-Saône que revendique Mâcon. Figurez-vous qu'une pyramide est élevée au milieu du pont pour fixer la limite entre l'Ain et la Saône-et-Loire.
D'autres structures entre le département et les communes ?
Oui, c'est toute l'organisation administrative de la France qui est revue. Le département crée lui-même les districts, 9 pour l'Ain, le maximum autorisé. Ensuite, les cantons, avec des querelles entre les cités pour être chef-lieu et siège du tribunal. 49 cantons sont créés, avec des communes qui demandent à être rattachées à tel ou tel canton.
Beaucoup de procédures.
Toujours, toujours. On supprime les districts en 1800 pour créer 4 arrondissements. Le cinquième sera celui de Gex, en 1815, lorsque l'éphémère département du Léman cessera. canton de Genève, gardant quand même 6 communes de l'Ain.
Un nouveau personnage arrive avec les communes. Un personnage encore bien présent aujourd'hui.
Oui, le maire. Un personnage si respecté que c'est partout et pour tous, sans exception, monsieur le maire. Il faudra attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que l'on puisse dire madame le maire.
Martine, comment devient-on maire avec la loi de 1789 ?
Selon quelques règles. Il faut payer un minimum d'impôts et avoir 25 ans pour être électeur. Payer un peu plus d'impôts pour être élu au corps municipal. Et ce corps municipal élit le maire pour 2 ans.
Tout cela est éphémère, car la Révolution vit des heures bien difficiles.
Elle impose déjà une modification en décembre 1793. Les maires sont supprimés. Chaque commune garde un agent national et un adjoint. Ceux-ci sont rassemblés au sein de nouvelles communautés cantonales avec la présence d'un commissaire nommé par le pouvoir. Paris contrôle tout.
Avec les mesures contre l'Église, des communes changent de nom. Il faut effacer les références à l'Église, au passé.
C'est ainsi que Bourg devient Bourg régénéré, Épidin, Épidore ou encore Blédin. 75 communes sont concernées. Quelques exemples pour s'imprégner de l'air de révolte. Montrevel devient Mont-Uni. Saint-Rémy, Bellevue-sur-Velle. Saint-Trivier-de-Courte devient Val-Libre. Saint-Denis en Bugey, le Chausson d'Albarine. Si ce n'est pas de la poésie, c'est de l'imagination.
La Révolution se termine en novembre 1799 avec Napoléon et l'instauration du consulat.
Qui rétablit l'appellation de maire. Mais les maires sont désormais nommés par le préfet. Il en sera ainsi pendant plusieurs décennies, sauf pendant la courte période de la Seconde République de 1848 à 1851.
Revenons à nos communes de l'Ain. Toutes n'ont pas été maintenues et certaines engagent une procédure pour retrouver leur autonomie. Commençons par une réussite obtenue de haute lutte à Villieu, au bord de l'Ain et à côté de Meximieux.
Ah oui, de longues luttes, il n'y a pas d'autre mot. Énumérons les faits. Soyez attentifs aux péripéties. Loye et Villieux, en 1789, sont 2 paroisses qui deviennent 2 communes. En 1793, elles sont regroupées dans la seule commune de Loye, au grand mécontentement de Villieux, qui demande son rétablissement en 1832, à cause, je cite un rapport, des querelles sur les intérêts communaux et sur l'animosité depuis longtemps enracinée entre les habitants des 2 sections. Le ministère refuse cette requête en 1835. Villieux fait une nouvelle demande en 1838, sans succès. Les querelles se suivent, les représentants de chaque section quittent alternativement les réunions du conseil municipal. Une 3e procédure est engagée en 1879. Les 2 sections ont alors toutes 2, école, église, presbytère et cimetière. La séparation est enfin acceptée, car les 2 communes auront sensiblement la même superficie et le même nombre d'habitants. Mais le décret officiel de séparation n'est signé que le 18 juin 1897. Ouf pour Villieux, 65 ans d'attente.
Continuons par 2 refus. D'abord entre Cuet et Morvel, au cœur de la Bresse.
Là, nous sommes en juin 1873. Les habitants de Cuet veulent retrouver leur autonomie. Ils estiment être délaissés. Leurs impôts sont davantage utilisés pour Morvel que pour leur école ou leur chemin. Seuls les électeurs peuvent se prononcer et signer le registre d'enquête. Ceux de Morvel se mobilisent fortement en faveur du maintien de l'unité. L'enquête publique se termine par la conclusion du commissaire enquêteur. Je le cite. « Nous ne trouvons que des désavantages pour la commune de Morvel, surtout à cause du rang qu'elle occupe dans l'arrondissement. » Le conseil général de l'Ain suit cet avis et refuse la scission en octobre 1874. Il y aurait trop de disparités entre les 2 communes.
Allons maintenant dans le Revermont, du côté de Coligny, où Dingier demande à être séparé de Salavre en juin 1886.
Là, c'est le calme plat. Seuls 25 électeurs de Dingier se présentent au commissaire enquêteur. Ceux de Salavre boudent l'enquête. La séparation est refusée en août 1887.
La désignation des maires change après le Second Empire.
Le maire et les adjoints sont désormais élus par le conseil municipal. En 1884, une nouvelle loi régit toute la vie municipale dans un esprit démocratique. Les conseillers sont élus pour 4 ans, puis 6 en 1929.
À quel moment l'un compte-t-il le plus grand nombre de communes, après les 501 de 1789 ?
Leur nombre évolue jusqu'à 457, à la veille de la Grande Guerre. C'est la belle époque, la période où les villes s'embellissent. C'est aussi l'apogée de la ruralité. Ensuite, Crépieux-la-Pape, près de Lyon, est créée en 1927. C'est la 458e commune de l'Ain, un total qui restera inchangé jusqu'à la guerre suivante.
Que se passe-t-il pendant l'entre-deux-guerres ?
D'abord, la création d'intercommunalités. Le pays fixe les règles d'urbanisation de Paris et les étend aux autres villes en 1935. Le groupement régional d'urbanisme de Bourg-en-Bresse est constitué en juin 1937, en associant les communes voisines de Péronnat, Viria et Saint-Denis-les-Bourgs.
Ce projet évolue lentement. La guerre survient et le régime de Vichy propose des projets intercommunaux.
Il supprime surtout deux communes. Hauteville absorbe l'Aulne et Corvessia intègre Saint-Maurice-des-Chazeaux. Saint-Maurice-des-Chazeaux, un joli nom de douce France. Ce village domine une boucle de la rivière d'Ain et restaure actuellement son église médiévale.
Revenons à notre sujet. Quelle est l'étape suivante ?
En décembre 1967, le Rhône grignote l'Ain. La création de la communauté urbaine de Lyon entraîne le rattachement de 6 communes de l'Ain au département du Rhône.
Arrive la loi de juillet 1971 qui incite les communes à fusionner ou à se regrouper. Le préfet propose 54 fusions. Un référendum est organisé en mai 1973. Les communes concernées se mobilisent.
Pour refuser toute fusion. Les 4 communes périphériques votent massivement pour rejeter la fusion de 89 à 96%. Bourg l'accepte à 53%, mais avec seulement 22% de votants.
Quelques communes fusionnent néanmoins.
Oui, 16 fusions se réalisent. Dans le Revermont, Hautecourt et Romanèche, ou Tréfort et Cuisia. Et au bord de l'Ain, Mataflon et Grange, et Vieux-Lois et Molon. Vieux qui ne voulait pas de loi, je vous le rappelle, pendant un siècle et demi. Ce n'est peut-être pas le seul exemple de retournement d'opinion.
Cette loi de 1971 provoque moins de 1000 fusions en France, malgré les incitations financières. Nouvelle tentative en 2015, avec la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République.
Avec notamment la création de nouvelles communes. L'Ain en enregistre 17 en 2 ans. Le département compte actuellement 393 communes. Il est plutôt bon élève, car la France est à peine passée sous la barre des 35 000 communes. Il y en avait 37 962 en 1962.
Si la France est réticente aux fusions de communes, elle crée d'autres structures.
Le district de Morvel en a été un des précurseurs en novembre 1965. À Bourg, un syndicat intercommunal est créé en 1979 et sa première réalisation a été le Foirail. Aujourd'hui, le Grand Bassin de Bourg-en-Bresse regroupe 74 communes.
Et les futurs délégués seront issus des élections municipales des 13 et 20 mars prochains. Nous terminons notre chronique.
Passons rappeler que les femmes françaises ont voté pour la première fois lors des élections municipales du printemps de 1945. Que la première femme de l'Ain élue maire a été Marie Collet à Tréfort en janvier 1947. Et quittons-nous avec Yves Duteil et les gens de mon village. Avec beaucoup de poésie et de vérité, il évoque une ruralité encore bien présente en France et dans l'Ain.
Au revoir, au mois prochain, toujours sur Radio B, les bonnes ondes 90 FM.
Avec les gens de mon village, j'ai appris qu'on pouvait construire nos rêves ensemble à notre image et dessiner notre avenir. si d'aventure la politique peut rejoindre la poésie, il arrive que la musique lui insuffle son âme aussi. Et si parfois la maladresse, la malveillance ou le mépris d'un regard ou d'un mot me blesse, en revanche je sais aussi que j'ai trouvé des joies plus belles à travers des moments vécus et plus de moissons éternelles que de peines et de temps perdus. Avec les gens de mon village, j'irai au bout de ce chemin, en entraînant sur mon sillage les enfants qui viendront demain. Je m'ennuierai de leurs chimères, de nos rêves et de nos folies, si je devais faire marche arrière, et je crois que c'est bien ainsi. J'ai marié des gens qui s'aiment et la lumière de leurs sourires était le plus beau des poèmes qu'il m'ait été donné d'écrire. J'ai toujours du cœur à l'ouvrage et je chanterai d'autant mieux avec les gens de mon village. Je travaille et je suis heureux avec les gens de mon village. Je travaille et je suis heureux.